Merci Seigneur.
Je voudrais qu'on puisse lire un texte ensemble dans les psaumes. Un psaume qui est assez connu et qui fait partie de toute une série, c'est le psaume 121. Toute une série de psaumes qui ont été écrits et qui servaient à un moment donné pour le peuple d'Israël quand il faisait le pèlerinage vers Jérusalem pour les fêtes juives. Il y avait différents psaumes qui étaient pris et ce psaume en particulier, c'était des chants donc, hein, qui étaient pris. Et les personnes qui allaient en pèlerinage à Jérusalem prenaient ces chants, et il y en a un qui m'a interpellé, c'est le psaume 121, qui est bien connu, qui commence comme cela, « Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. » Qui ne connaissait pas ce psaume ce soir ? Eh bien, c'est l'occasion de le lire. Moi, c'est un psaume qui m'a marqué, parce que quand j'étais enfant, mes parents prenaient ce dernier verset en particulier. Quand on partait en vacances et qu'on prenait la voiture bien chargée, les bouchons sur les routes, et mes parents me rappelaient ce verset. « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » Est-ce que ce n'est pas déjà une promesse merveilleuse ? En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a interpellé quand j'étais enfant. Savoir que Dieu était capable de nous garder, quel que soit notre déplacement. Mais avant d'arriver jusque-là, nous réalisons que ce psaume, il y a un mot-clé qui est répété à longueur de verset, c'est le mot « garder ». L'Éternel te gardera. Et le verset central, c'est « l'Éternel est celui qui te garde », au verset 5. Ce soir, je voudrais qu'on puisse voir ensemble des conditions pour être sûr de bénéficier de la protection divine, être sûr d'être sous la garde du Très-Haut. Qui c'est qui est intéressé par être sous la garde de Dieu ? Mais de façon sûre. Comme le disait tout à l'heure, de la même manière qu'on peut être sûr de notre salut, on peut être sûr d'avoir la protection de Dieu. D'ailleurs, la personne qui est sûre de son salut est sûre d'avoir la protection de Dieu. Déjà, ça c'est un indice. Mais voilà, déjà, avancer dans cette compréhension-là, qu'on a besoin de comprendre qu'on a besoin d'être protégé surtout. Besoin d'être protégé, admettre son besoin, agir en faisant le choix, le bon choix qui nous permet d'obtenir la protection de Dieu et de voir dans quoi se consiste cette protection de Dieu. Voilà trois aspects que nous allons voir ce soir. Et vous avez remarqué la première phrase, à part le cantique des degrés, « Je lève mes yeux vers les montagnes ». Et vous savez que le pèlerin juif qui allait à Jérusalem, quand il regardait son but, quand il regardait l'endroit où il devait aller, le temple en particulier, et qu'il regardait la ville de Jérusalem alors qu'il se trouvait peut-être à des dizaines de kilomètres encore, eh bien, il voyait des hauteurs, des montagnes. Il voyait qu'il y avait une progression, ça montait pour aller jusque là-bas. Et la route, ce n'était pas forcément facile. Mais en tout cas, le but, c'était d'arriver à ces montagnes. D'ailleurs, une des montagnes de Jérusalem, c'est sur laquelle a été fait le temple vers lequel ils allaient. Et quand il est dit cantique des degrés, ça parle aussi des marches qu'il fallait emprunter pour accéder jusqu'à ce temple. Il y a toute une idée de progresser, d'aller de progrès en progrès. Mais le psaume 121 fait référence à des montagnes. Je lève mes yeux vers des montagnes, et si les montagnes pouvaient représenter cet endroit où il y avait la présence de Dieu, le temple de Dieu, dans plusieurs moments de l'histoire malheureuse d'Israël, les montagnes se sont transformées en des endroits où ils adoraient les idoles. Les endroits qui étaient des hauts lieux, comme on appelait, c'était des endroits où les gens consacraient cet endroit-là pour adorer les idoles. Et souvent, on est confronté dans nos vies à des montagnes. Il y a des montagnes qui sont comme des choses réjouissantes, mais qui, à cause du péché, peuvent être déformées et devenir des choses moins bonnes. Je prends des exemples, mais par exemple, la famille. Est-ce que la famille, c'est une bonne chose ? On est tous d'accord, la Bible nous encourage à aimer notre famille, etc. Cet après-midi, on entendait qu'il fallait que les enfants ils aient du respect envers leurs parents, et les parents, il ne fallait pas qu'ils irritent leurs enfants. La Bible donne toutes sortes de conseils par rapport à la famille. Mais est-ce que la famille ne peut pas aussi devenir un piège ? Est-ce que la famille ne peut pas devenir un piège ? Je vous pose la question. Quand moi, je me souviens d'une personne qui... Un homme, donc j'allais dire un jeune homme, mais c'était son problème, c'est qu'il était un homme qui n'était pas marié. Et qui, ça commençait à faire des années, il avait 37 ans, je crois, quelque chose comme ça, ou plus. Et il avait une merveilleuse famille, mais une maman très, 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 très maman poule, vous savez. Tout le temps là, pour pouvoir lui dicter ce qu'il fallait faire. Et cet homme, il a failli se marier à un moment donné, mais la relation a échoué. Pourquoi ? Parce que la maman, elle était omniprésente. Vous voyez que la famille, c'est bien, mais ça peut être aussi, certaines fois, quand c'est dans l'excès, ça peut être quelque chose de mauvais. Et la Bible nous dit de ne pas négliger Dieu à cause de notre famille, par exemple. Que mettre Dieu, chercher le royaume de Dieu en tout premier, et Dieu nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Si l'homme il a besoin de se marier, ou la femme a besoin d'avoir un époux, ben Dieu il fera en sorte que ça arrive. Mais ce que nous avons à faire, c'est de mettre Dieu en premier. Et c'est vrai qu'il y a des personnes, comme cet homme-là qui a voulu mettre sa femme, sa maman avant la future femme, et il a vu que c'était une catastrophe dans sa vie. Il y a d'autres choses. La Bible nous parle que dans les derniers temps, les gens seront amis de l'argent. Est-ce que l'argent, c'est quelque chose de bien ? En soi, c'est pas mauvais. Mais c'est la façon dont on l'utilise, la façon dont on a une relation avec, ça peut devenir quelque chose de mauvais. La Bible dit qu'il y aura des gens qui seront amis de l'argent, amoureux de l'argent, si vous préférez, qu'ils auront une passion pour l'argent, en désirant toujours gagner plus, toujours avoir plus d'argent. Et certains qui sont dans ces pièges-là veulent avoir un bon salaire. C'est pas mauvais d'avoir un bon salaire, mais ils travaillent, et ils ne voient jamais leur famille, justement. Et eux, ils tombent de l'autre côté où ils négligent leur famille à cause de l'argent. Et ils négligent aussi Dieu. Parce qu'on ne peut pas être ami du monde et ami de Dieu en même temps. Il faut qu'on choisisse un de nos maîtres. Aimant le plaisir plus que Dieu. Vous voyez ? Est-ce que le fait de se faire plaisir, c'est mal en soi ? Tout dépend en quoi consiste le plaisir, on est d'accord. Mais il y a des gens pour qui le plaisir est devenu comme une montagne. Comme avant, on parlait de l'argent, des gens qui ont fait toute une montagne de l'argent, il y a des gens qui ont fait toute une montagne du plaisir. Et il y a tellement une importance à se faire plaisir, à considérer son propre plaisir, qu'ils se détournent totalement des autres, qu'ils ne regardent plus à ce qu'eux, ils peuvent faire comme bien à ceux qui donnent, à ceux qui sont autour d'eux. Et je repense à ce verset quand je parlais, c'est pour ça que j'ai dit « donne ». Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, nous dit le Seigneur. Vous vous souvenez de ce verset ? Et il y a des gens qui sont à côté de cette réalité, qui sont à côté de la joie, parce qu'ils n'ont plus ils n'ont pas d'intérêt à donner aux gens. Et ils préfèrent tout s'accaparer, se faire plaisir, continuellement se faire plaisir. Bien sûr que s'il n'y a pas de mal à se faire plaisir en soi. Mais quand notre plaisir prend le pas sur Dieu, d'ailleurs c'est ce que l'apôtre y rappelle, aimant le plaisir plus que Dieu. Quand notre plaisir devient comme une montagne à laquelle on regarde pour être secouru, quand ça ne va pas, quand on est triste, ah, mais moi je vais me faire plaisir. J'avais des collègues, quand je travaillais à l'usine, j'avais des collègues, vous savez comment ils se faisaient plaisir ? Et ils buvaient. Ah, ils buvaient à l'excès, et le lendemain, quand ils revenaient au boulot, ils étaient morts, ils avaient la tête, un truc de fou, et les yeux plus bas que les chaussettes. Et ils disaient, mais... Ah là là, mais pourquoi j'ai bu autant ? Ah, qu'est-ce que je suis mal, j'ai envie de vomir. Ils disaient tout ce qui n'allait pas, mais parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans leur vie, ben le soir même, ils se retrouvaient à boire encore pour oublier leurs soucis. Ils se retrouvaient à essayer de se faire plaisir de cette manière-là, mais ce qu'ils en récoltaient, c'était qu'à chaque fois, ils avaient de plus en plus mal à la tête, et même le corps commençait à avoir certains problèmes. Il y en a qui avaient des problèmes de foie, parce qu'ils avaient tellement bu, les bières par-ci, les Ricards par-là, et ils racontaient leurs exploits. Mais quand on voyait le résultat le lundi matin au travail, je vous assure qu'on n'avait pas envie de leur ressembler. Aimant le plaisir plus que Dieu. Et quand on leur parlait des choses de Dieu, eh ben là, ils étaient forts pour se moquer. Ils étaient forts pour remettre en question beaucoup de choses. Mais moi, ça ne me donnait pas envie, leur exemple. Parce que quand je voyais leur tête, quand je voyais surtout leur soi-disant bonheur, leur soi-disant plaisir, qui les conduisait à toujours se faire plus de mal à leur propre corps. Je disais, moi, Seigneur, je veux te suivre. Moi, je veux marcher dans tes voies. Je veux lever mes yeux plus haut que ça. Et des fois, dans les montagnes, il y a certaines montagnes en nous qui existent parce que on a une vision déformée de la réalité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais le péché qui habite en nous fait que les situations qu'on regarde, elles sont déformées. Et un grain de sable va nous paraître comme une montagne infranchissable. Et le psalmiste, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, mais il dit aussi, d'où me viendra le secours ? Ce n'est pas des montagnes que ça va me venir le secours. Hein, peut-être s'il pensait au temple, il savait que le temple, ça représentait la présence de Dieu, mais il savait que Dieu était plus grand que le temple encore. Il savait que Dieu était le Dieu qui avait créé l'univers, qui avait même créé toutes les montagnes, qui avait créé le ciel, la terre, et il avait cette confiance. Mais si dans notre vie on laisse le péché régner, eh bien une vision déformée de la réalité. Je pensais à cet exemple, mais l'orgueil. Est-ce que l'orgueil, qui est un péché, ne nous amène pas à voir, par exemple, le pardon comme une montagne ? Quelqu'un qui est orgueilleux, est-ce qu'il va avoir la facilité à pardonner ? Vous voyez que ça va lui paraître quelque chose d'infranchissable. Comment moi qui suis, ingénieur, etc., moi, je dois pardonner à cet homme, à ce clochard ? Moi ? Comprenez ? Ça peut devenir une montagne. Par exemple, pour une personne orgueilleuse, est-ce que c'est pas... Je reprends la même personne, mais est-ce que le fait de demander de l'aide, est-ce que ça peut pas devenir une montagne pour cette personne ? Vous voyez comme quoi le péché peut déformer la réalité. La timidité, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui nous amène à voir le fait de parler aux autres comme une montagne ? Moi qui étais un grand timide, je peux vous dire que c'était ça. Quand on est timide, le simple fait de s'exprimer, quand j'avais un exposé à préparer à l'école, il n'y avait que 20 personnes à l'école, dans la classe, il pouvait y en avoir 2 ou 20 ou 100, c'était pareil. C'était une montagne infranchissable. Comment je vais faire pour parler ? Alors j'essayais de faire mon exposé tout tremblant, de montrer mes notes, mais toutes mes notes bougeaient. J'étais incapable d'aligner 3 mots. Pourquoi ? Parce que j'étais timide. Et des fois, en tant que chrétien, la timidité peut faire la même chose que de représenter des situations où on devrait témoigner, où il y a l'occasion favorable qui est là. Dieu nous déroule le tapis rouge pour qu'on puisse témoigner. Et parce qu'on est timide, on ne le fait pas. Il y a des montagnes qui sont là dans notre vie. Une autre montagne auquel je pensais, le désespoir. Quelqu'un qui est désespéré, il va voir le futur, tout ce qui va arriver, tous les événements qui vont s'enchaîner, comme une montagne encore. Et quand on réalise, là je ne donne qu'une petite liste, mais on pourrait multiplier les exemples, en tout cas on voit qu'on a besoin d'un secours. On a besoin d'une protection. D'où me viendra le secours ? Oui, il y a des montagnes dans ma vie. Il y a des montagnes, une montagne de timidité, une montagne d'orgueil, peut-être une montagne, en tout cas, de péché. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de plus haut que la montagne. Le secours me vient du ciel. Le secours me vient du Seigneur Jésus. Et je repensais à cet exemple. Vous savez, à Colomiers, j'y habitais quand j'avais 3 ans. Et devant l'église de Colomiers, il y a... Dans mon souvenir, il y avait une montagne incroyable. Et quand on allait tout en haut de cette montagne, je me souviens qu'on faisait des roulades jusqu'en bas. Je ne sais pas combien de roulades on faisait avec mon frère, mais on s'amusait, on s'éclatait à la fin du culte, parce qu'on était tout petits. Mes enfants, ils courent partout dans les chaises. Mais là, c'était, on allait dehors et on jouait sur la montagne. Et puis quand j'y suis retourné il y a un an, et que j'ai vu la pauvre petite colline, le pauvre petit bosse de terre qui était là devant, je me suis dit, mais... Comme quoi ça dépend de notre point de vue. Quand j'étais tout petit, ça me paraissait quelque chose d'immense. Mais quand je suis devenu grand, ça me paraissait quelque chose de tout petit. Et souvent, le péché, parce qu'il nous dévalorise, parce qu'il nous trompe, parce qu'il nous ment à nous-mêmes, il nous fait voir les réalités de façon totalement fausse. Et comme je le disais, quelque chose de tout petit peut devenir une montagne. Mais Dieu veut nous aider, Dieu veut nous secourir. Et je voudrais parler des vraies montagnes qui entouraient la ville de Jérusalem, qui ne nous parlent que d'une chose, du Seigneur Jésus qui est venu du ciel. Le mont Morija est une des montagnes. Il y a 4 montagnes qui entourent quatre. Je vous en donne 4, il doit y en avoir plus. Mais il y en a 4 principales. Le mont Morija, sur lequel a été bâti le temple, qui nous parle du sacrifice d'Abraham. Vous vous souvenez du sacrifice d'Abraham qu'il a fait, il a failli égorger son fils à la demande de Dieu, mais Dieu l'a arrêté au dernier moment parce qu'il voulait lui communiquer une vérité, qu'il fallait qu'il y ait un sacrifice pour pardonner le péché, mais que quelqu'un allait prendre la place. Ça nous parle du sacrifice de Jésus, qui a dû prendre notre place à nous, qui a dû subir notre châtiment à nous pour que nous puissions être délivrés, pour que nous puissions être secourus. Le mont Golgotha, on connaît ce mont. Là où le Seigneur Jésus lui-même est venu accomplir cette prophétie qui avait été donnée de manière pratique à Abraham, c'est là où Jésus a été mis à mort. Le lieu du crâne, le lieu qui ressemble à, qui a une forme de crâne quand on y va, c'est un des endroits les plus touristiques parce qu'il y a vraiment, pour ceux qui ont vu des photos, ceux qui ont eu la chance peut-être d'y aller, ils ont vu ce lieu et ils ont vu que c'est vraiment un lieu de mort. Là où le péché conduit à la mort, le Seigneur Jésus a été fait péché pour nous à cet endroit-là et il est mort à notre place. Mais il y a un autre mont, le mont Sion, là où il y a le tombeau de David. Vous savez, c'est encore un endroit touristique, mais sur la pierre tombale du tombeau donc de David, il y a ces paroles qui sont inscrites en hébreu. David, roi d'Israël, vit, il est vivant. Est-ce que David est vivant? Est-ce que le roi David est vivant? Je précise, le roi David, celui qui a régné il y a quelques milliers d'années en arrière, il est mort. Je reprends un passage des Actes. L'apôtre Pierre, quand il a été rempli du Saint-Esprit, il s'est mis à prêcher et il a insisté sur quelque chose. « Homme, frère, qu'il me soit permis de vous le dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. » Comme il était prophète, il savait, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. Ça, c'est ce que l'apôtre Pierre a pu dire. Et le tombeau, le mention nous parle de cette réalité que David a eu un successeur, a eu un descendant dans la personne de Jésus-Christ, qui a un sacerdoce éternel et qui est maintenant ressuscité. Il n'est pas resté mort sur le mont Golgotha, il a été mis au tombeau, mais il est ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Et de la même manière que le Seigneur Jésus est ressuscité, Dieu, par son esprit, est capable d'intervenir dans notre situation, quelle que soit la hauteur de nos montagnes. Le Seigneur Jésus est capable d'intervenir. Il n'y a aucune montagne qui est trop grande pour le Seigneur. Parce que même la mort, il a réussi à en tirer le Jésus-Christ. Même la mort, il a réussi à avoir la victoire dessus. Alors qu'est-ce qui pourrait l'effrayer? Dites-moi. Quelqu'un qui a réussi à ressusciter. Et la dernière montagne, c'est le mont des Oliviers. C'est là où le Seigneur Jésus a intercédé parce qu'il a été oppressé par l'ennemi. Il a failli même mourir à cet endroit-là, dans le jardin de Gethsémané. Mais parce qu'il a été exaucé dans la prière, il a pu aller jusqu'au but que Dieu lui avait fixé. Il a pu marcher dans l'obéissance, aller jusqu'à la croix. Mais le mont des Oliviers nous parle surtout qu'un jour, Jésus va revenir en personne. S'il est ressuscité, il est vivant pour toujours. Il va revenir chercher ceux qui lui appartiennent. Il va revenir chercher ceux qui ont accepté de reconnaître qu'ils avaient besoin de secours et qu'ils ont crié à lui. Vous savez que c'est une prophétie. Le Seigneur Jésus va poser ses pieds sur le mont des Oliviers quand il va revenir. Et toutes ces montagnes, et on pourrait multiplier les exemples, mais toutes ces montagnes nous parlent que d'une chose, de la personne de Jésus. Je lève mes yeux vers les montagnes. Oui, je ne veux pas considérer mes propres montagnes à moi, je veux considérer les montagnes par lesquelles Dieu a parlé à ses enfants, qui m'a laissé des traces dans sa parole et qui me parle de que d'une seule chose, de Jésus-Christ qui est capable de me secourir. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a envoyé son Fils, qui a envoyé un moyen de salut pour que je sois arraché du péché, arraché des ténèbres, arraché du royaume de Satan et que je marche dans le royaume de la lumière, dans le royaume de Jésus-Christ. Et maintenant, si on reconnaît notre besoin, si on reconnaît qu'il y a des choses qui ne vont pas en nous, on a besoin de choisir, d'agir dans cette décision de saisir la protection de Dieu. Je choisis de lever les yeux. Je lève mes yeux. Je choisis de faire cet effort. Et qu'est-ce que ça veut dire lever les yeux? Vous savez que la Bible insiste beaucoup sur cette réalité. Mais si on regarde les psaumes qui entourent le psaume 121, je prends le psaume 123 qui est sous mes yeux, il commence comme cela. Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Amen. Vers quoi sont fixés vos yeux? Vers quoi sont fixés nos yeux? Spirituellement parlant, je ne parle pas de maintenant, je parle dans nos cœurs. Vers quoi sont fixés nos yeux? Vous savez que c'est important, la façon dont on regarde, et la chose que l'on regarde, la chose que l'on vise. Regardez avec moi dans Genèse, un bon exemple, deux personnes qui ont levé les yeux. Genèse chapitre 13. Il faut être prudent quand on lève les yeux. Regardez, Genèse chapitre 13, un certain monsieur qui s'appelle Lot et son oncle qui s'appelle Abraham. Alors c'est au verset 10. Il y avait un problème avec les bergers de l'un et les bergers de l'autre. Les deux étaient très 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 riches et ils commençaient à avoir des problèmes pour nourrir leurs troupeaux. Ils se disputaient les bergers entre eux et du coup ils ont dû se séparer et choisir de se séparer à ce moment-là. Et au verset 10, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Regardez ce qu'il est précisé. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Vous voyez un homme qui a levé les yeux, mais qui a regardé autour de lui. Il n'a pas levé les yeux vers l'Éternel pour savoir qu'est-ce qu'il voulait. Il a levé les yeux et il a regardé autour de lui. Combien de personnes cherchent du secours dans ce qu'ils voient autour d'eux? Peut-être des hommes, peut-être des scientifiques, ou peut-être des philosophes, ou peut-être des moralisateurs. Et ils vont essayer d'avoir auprès d'eux du secours, et ils vont se trouver trompés. Cet homme a choisi, a fait le choix plutôt de ce qui frappait le regard. Et il a vu une belle plaine, il a vu des beaux ruisseaux, mais il ne s'est pas rendu compte. Pourtant, il devait y avoir une certaine réputation, mais il ne s'est pas rendu compte que là où il visait, ça touchait Sodome et Gomorre. Regardez l'exemple d'Abraham, au verset 14. L'Éternel dit à Abraham, qui s'appelait Abraham à l'époque, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. » Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham se leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Vous voyez la différence de choix, la différence de caractère aussi. Il y en a un qui a étendu ses tentes jusqu'à la ville de Gomorre, de Sodome et Gomorre, là où il y avait le péché qui était manifeste. Il y en a un, quand Dieu lui a demandé, c'est même pas lui qui l'a fait, Dieu lui a demandé, lève les yeux et regarde autour de toi. Et tout ça, je vais te le donner. Dieu a pu lui dire ça parce que cet homme avait choisi d'abord, avant tout, de lever les yeux vers le ciel et de dire, Seigneur, je suis à ta disposition, je veux faire ta volonté, je crois que toi, tu es capable de diriger ma vie, de faire ce que tu veux dans ma vie, je crois que là où tu m'enverras, ça sera le meilleur. Alors Seigneur, je veux faire ce que tu me demandes. Et le Seigneur lui dit, je te fais une promesse, lève les yeux, tout ce que tu vois, ça sera à toi. Comment il réagit cet homme? Il bâtit un autel, il exprime sa louange, sa reconnaissance, il exprime toute son adoration envers ce Dieu qui veut le diriger, parce qu'il a compris qu'il était capable de le protéger. Une autre personne de la famille de Lot avait un regard qui n'était pas bon. La femme de Lot. Alors qu'il y a un jugement qui s'abat sur la ville de Sodome et Gomorre, justement, parce que le péché était à son comble, Dieu a été obligé de condamner cette ville, il y avait toutes sortes de péchés abominables qui prenaient place. Il y avait une consigne, ne regarde pas en arrière, ni toi, ni ta famille. Qu'est-ce qu'elle a fait cette dame? Elle a regardé en arrière. Et combien de personnes, malheureusement, sont dans cette vie ici-bas, et au lieu de lever les yeux vers le ciel et de s'attendre à avoir le secours de Dieu, ils se tournent et ils regardent en arrière. Ils regardent peut-être à leurs échecs. Ils regardent à tout ce qui n'a pas été dans leur vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas d'échec, qui est capable de regarder en arrière et de dire « Moi, c'est bon, tout est nickel. » N'importe qui regarde en arrière va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais Dieu nous appelle à considérer ce que nous avons fait comme erreur. Mais il est capable d'effacer, d'oublier notre passé, d'effacer tout ce que nous avons fait. Et il est capable surtout de nous faire regarder vers l'avant et de nous donner une espérance pour le futur, à savoir qu'un jour nous serons avec lui dans son ciel. Ne pas regarder en arrière comme la femme de Lot. Ne pas regarder à nous-mêmes. Si on regarde à nous-mêmes, on est vite déprimé. Si on regarde au diable, on est trompé. Si on regarde aux hommes, on est vite déçu. Il y a un seul regard qu'on doit faire. Et ce regard, on le voit dans Hébreux. Prenez avec moi Hébreux chapitre 12, qui nous dit la seule personne que nous devons regarder, qui est capable de nous apporter le secours parce qu'il a fait ce qu'il fallait. Hébreux chapitre 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Maintenant, le Seigneur Jésus est assis à la droite du trône de Dieu. Et si nous levons les yeux vers lui, eh bien, nous avons cette possibilité d'être secourus. Mais je voudrais qu'on aille plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire lever les yeux vers le ciel? Lever les yeux vers le Seigneur? Lever les yeux vers Jésus? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que quand je prie, il ne faut pas que je ferme les yeux, mais que je les ouvre et que je regarde vers le plafond? Est-ce que c'est ça? C'est spirituellement parlant qu'on doit lever les yeux vers le ciel. Et j'ai choisi quelques versets qui nous parlent que quand on fait quelque chose, le Seigneur, il nous garde, tout simplement. Un verset qui est bien connu, que je vous cite, « Ne vous inquiétez de rien ». Dans Philippiens 4, 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. » Qu'est-ce qu'elle fera, cette paix? Elle gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Est-ce que vous voulez la protection de Dieu? Alors acceptez de faire des prières envers le Seigneur. Et pas des prières récitées par cœur et qu'on ne comprend pas ce qu'on dit. Des prières qui viennent du cœur. J'ai un besoin, je suis dans la détresse. Seigneur, je crie à toi, je crois que tu peux me secourir de ma détresse. Je suis malade, Seigneur, je crois que tu peux me guérir de ma maladie. Je suis tenu par un péché, par un lien particulier. Seigneur, je crois que tu peux me libérer. Je te fais connaître mon besoin. J'en ai assez de m'inquiéter pour toutes ces choses qui m'assaillent, qui sont comme des montagnes. J'en ai assez de mesurer l'altitude de la montagne. Seigneur, je veux regarder à celui qui peut me faire passer par-dessus la montagne. Je veux que ta paix surnaturelle puisse m'envahir. Je veux que tu puisses garder mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Deuxième verset, 1 Pierre, chapitre 1er, et le verset 5. Il y a cette attitude de prier, mais il y a cette attitude d'avoir la foi, d'avoir cette confiance en Dieu. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 5. On peut même lire à partir du verset 3. 1 Pierre 1, 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu, regardez bien, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les temps derniers. Vous êtes gardés, comment? Par la foi. Pourquoi faire? Pour le salut. Est-ce que vous voulez la protection de Dieu? Est-ce que vous voulez être gardé? Eh bien, il faut avoir la foi. Si vous avez la foi en Jésus, vous aurez la foi en quoi? Dans la mort de Jésus pour vous et dans le fait que vous êtes sauvé, comme on en parlait tout à l'heure. Vous serez gardé. Vous serez gardé même dans ces temps difficiles. La prière, la foi, le psaume 25 nous dit que, je le lis pour vous, psaume 25, verset 21, que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Vous voyez, lever les yeux, c'est pas seulement, comme je le disais, regarder au ciel. Lever les yeux, c'est avoir une attitude de cœur. Je prie parce que j'ai un besoin. Je prie parce que j'ai besoin que quelqu'un vienne me secourir. Et je crois, j'ai la foi que Dieu est cette personne-là qui peut m'aider. Je veux placer mon espoir en Dieu. Je crois que je ne mérite pas la bénédiction de Dieu. Je ne mérite pas la protection de Dieu. Mais comme il est dit, l'innocence et la droiture me protègent. C'est pas mon innocence, c'est pas ma droiture. mais parce que j'ai compris que le Seigneur Jésus était innocent, était pur, et qu'il avait pris ma place sur le bois de la croix, il avait pris mon châtiment surtout, je crois que maintenant il me donne cette possibilité de marcher dans l'obéissance, cette possibilité de marcher en attendant l'espérance, en ayant cette espérance en Dieu en tout cas, qu'il est capable de me faire avancer. Et la quatrième chose qu'on peut faire de manière pratique pour être gardé, c'est dans Apocalypse qu'on peut prendre ensemble ce passage. Apocalypse chapitre 3, verset 10. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Parce que tu as fait quoi ? Tu as gardé la parole et tu l'as fait avec persévérance. La parole de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Est-ce que vous lisez la parole de Dieu ? Est-ce que, plus que la lire, vous la gardez ? Quand il est question de garder la parole, ça ne veut pas dire qu'il faut la garder bien précieusement dans notre coffre-fort, derrière notre tableau à la maison, si on en a un. Ça veut dire qu'il faut la mettre en pratique. Garder la parole, c'est cette image de faire tout ce que la parole nous demande. Et de le faire, non pas de temps en temps quand ça nous arrange, mais avec persévérance. C'est ça la parole de persévérance. Parce que tu as fait ça, le Seigneur a été capable de dire à cette église, à ces chrétiens-là, parce que tu as gardé la parole, moi je te garderai. Dans les temps où il y aura la tentation, est-ce que nous ne sommes pas dans ces temps-là, où il y a des tentations tout autour de nous, où il y a des épreuves, c'est le même mot, tentation, épreuve, c'est pareil. Est-ce qu'on n'a pas besoin de la protection de Dieu dans ces moments-là ? Le Seigneur nous fait cette promesse. Si tu pries, si tu mets ta foi en moi, si tu mets ton espérance en moi, si tu gardes ma parole, je te garderai, tu auras ma protection. Alors, en quoi consiste cette protection ? Là, il faut revenir au psaume 121 qui nous le décrit tellement bien, de quelle manière le Seigneur Jésus, le Dieu Tout-Puissant, est capable d'intervenir en notre faveur pour nous protéger. Le verset 3 nous parle de cette protection qui est perpétuelle. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Alléluia. Le Seigneur Jésus, Dieu, le Dieu Tout-Puissant, ne dort jamais. Il ne ferme jamais les yeux. Qui c'est qui est rassuré par cette parole ? Est-ce que vous aimeriez d'un Dieu qui dort de temps en temps ? Vous savez, quand Élie s'est moqué des prophètes de Baal, il leur a dit, mais criez plus fort, peut-être que votre Dieu il est en train de dormir, peut-être qu'il est en voyage, peut-être qu'il est loin, il n'entend pas. Parce qu'il, pour leur montrer que leur Dieu, ce n'était pas le vrai Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, il ne sommeille ni ne dort. Même quand nous on dort, ça nous arrive de dormir heureusement, mais même quand nous on dort, qu'on n'est pas conscient de ce qui nous arrive, le Seigneur Jésus, il ne sommeille ni ne dort. Et qui voudrait d'un gardien, un gardien de nuit qui s'amuse à dormir quand il est censé garder les personnes ? Vous savez, en Afrique, comme c'est des endroits un peu dangereux, on est obligé d'avoir un gardien la nuit. Et moi j'imagine que ce gardien-là qu'on avait à l'époque, qu'on le retrouve en plein milieu de la nuit et qu'il est en train de faire le plus beau sommeil de toute sa vie, alors qu'il est payé à rester éveillé. Comprenez qu'on est obligé de lui faire des reproches. Qui voudrait d'un gardien qui dort ? Personne. Mais on a un gardien tout-puissant, le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, et qui a promis que sa protection sur nos vies serait perpétuelle, continuelle. Et il est dit qu'il ne permettra point que ton pied chancelle, c'est-à-dire qu'à même à chaque pas que tu vas faire, il y aura la protection de Dieu dès l'instant où tu vas mettre ta foi en lui, dès l'instant où tu vas lever les yeux, comme on le disait, vers le Seigneur. Deuxième chose, verset 5, « L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. » C'est une protection perpétuelle, mais une protection personnelle, adaptée. Il est question que l'Éternel est notre ombre. Est-ce que quelqu'un arrive à courir plus vite que son ombre ? On connaît quelqu'un qui tire plus vite que son ombre, mais est-ce que quelqu'un a déjà couru plus vite que son ombre ? Vous voyez l'image qui est donnée ? Simplement que Dieu nous accompagne partout où nous pouvons aller. Et Dieu est capable d'être avec nous et être en même temps avec notre voisin, être en même temps avec celui qui est à l'autre bout du monde, de l'autre côté de la planète, parce qu'il a pris cette image, l'Éternel est notre ombre à notre droite.
L'Éternel est celui qui est avec nous. Il nous connaît par notre nom. Nos noms sont gravés sur ses mains. Il y a tellement de passages dans la Bible qui nous montrent que chacun d'entre nous, de manière individuelle, on est précieux à ses yeux. Et que de cette manière-là, la protection qu'il va pouvoir déployer sur nous, elle va être parfaitement adaptée, elle va être parfaitement cohérente, elle va être parfaitement appropriée, parce que l'Éternel nous connaît tel que nous sommes. Alors, que nous puissions être rassurés. Et la troisième chose, l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. La protection de l'Éternel, elle est puissante. Rien n'est trop difficile. Et je parlais tout à l'heure de différentes montagnes qui peuvent, différents péchés dans notre vie qui peuvent être des montagnes. Il n'y a rien qui est trop difficile pour le Seigneur. Mais parce que certaines fois, on a faibli dans notre foi, parce que certaines fois, on n'a pas assez mis notre espérance à l'Éternel, peut-être que certaines fois, on n'a pas assez prié, peut-être que certaines fois, on n'a pas assez lu la Bible et on ne s'est pas assez nourri de cette parole, eh bien, on a laissé la montagne triompher de nous. Seigneur, ce soir, veut simplement vous donner cette parole. Ce n'est pas compliqué. Si tu veux être délivré, si tu veux être protégé, mets ta confiance en moi. Si tu veux triompher de cette montagne qui a pris le dessus dans ta vie, si tu veux peut-être triompher de cette place que la famille a pris dans ta vie, si tu veux triompher de cette place qu'a pris l'argent dans ta vie, viens dans ma présence. Viens et remets, apporte par une prière, fais connaître ton besoin. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va te garder dans la volonté de Dieu, va te garder dans l'approbation de Dieu. La seule question que nous devons répondre, c'est où va-t-on chercher notre secours? Est-ce que nous le cherchons dans nous-mêmes? Est-ce que nous le cherchons autour de nous? Est-ce que le cherchons même sur le temple? Je prends l'image de ce pèlerin qui monte vers le temple. Mais il a compris quelque chose, cet homme. Ce n'est pas le temple qu'il faut considérer. Ce n'est pas l'église pour moderniser qu'il faut considérer. Ce n'est pas le fait de venir aux réunions qu'il faut considérer. C'est est-ce que tu as choisi de prendre ton secours, de regarder pour obtenir du secours vers le ciel, vers Jésus-Christ qui est assis à la droite de Dieu parce qu'il a remporté la victoire sur la terre, parce qu'il a remporté la victoire sur l'ennemi à la croix. Parce qu'il a remporté la victoire sur le péché à la croix, parce qu'il a remporté la victoire sur n'importe quelle montagne. Par la foi, tu peux triompher de ces choses dans ta vie, aujourd'hui, ce soir, parce que le Seigneur veut te protéger, parce que le Seigneur veut te bénir. Alors, simplement, où allons-nous chercher du secours? Ce soir, c'est l'occasion de lever les yeux vers le ciel et de dire « Seigneur, j'ai besoin de ton secours ». On incline nos fronts, s'il vous plaît, et je voudrais simplement prier. Que le Seigneur puisse nous interpeller ce soir par sa parole. Oui, Seigneur, tu vois combien de montagnes il peut y avoir autour de nous-mêmes, combien de personnes semblent dans la réussite parce qu'ils ont passé leur vie à chercher l'argent, parce qu'ils ont passé leur vie à avoir une situation, Seigneur, ou à prendre soin de leur famille, mais qu'ils ont totalement négligé ta présence. Seigneur, je te demande que nous puissions, nous, ce soir, lever nos yeux vers toi, que nous puissions te faire connaître notre besoin. Tu vois notre besoin d'être secouru du péché. Tu vois notre besoin peut-être d'être secouru de tel ou tel vice dans notre cœur. Tu vois notre besoin peut-être d'être délivré de l'orgueil qui nous empêche de demander de l'aide autour de nous. Tu vois peut-être le besoin d'être délivré de la timidité, le besoin d'être délivré, Seigneur, du désespoir qui nous amène à regarder le futur comme quelque chose d'incroyablement difficile, Seigneur. Nous voulons mettre notre espoir en toi ce soir, tout simplement. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Tu es, Seigneur, tu es celui qui me garde. Tu es celui qui m'assure la protection. Dès l'instant où je mets ma foi en toi, dès l'instant où je garde ta parole, dès l'instant où je choisis d'obéir, dès l'instant où je te demande pardon pour mon péché et je t'avoue mes transgressions, tu les effaces, tu les oublies, Seigneur, et tu me traites comme quelqu'un d'innocent et pur à tes yeux. Merci, Éternel, pour ta grâce. Merci, Éternel, encore dans cette soirée, de faire grâce à chacun d'entre nous. Tu vois, tu connais les besoins, tu connais les cœurs, tu connais les circonstances, tu connais, Seigneur, les montagnes qui sont là autour de nous. Mais Seigneur, nous ne voulons pas considérer ces montagnes, nous voulons te considérer toi, ton sacrifice, ta résurrection et ton retour prochain. Seigneur, nous voulons être prêts quand tu vas revenir. Alors Seigneur, dans ces moments, nous voulons les passer sous ton saint regard et nous voulons que tu, dans ces moments, tu puisses fortifier nos cœurs, nous donner cette assurance que tu nous protèges, que tu nous gardes. Merci parce que tu ne sommeilles pas, merci parce que tu ne dors pas. pas, Seigneur. Merci parce que nous pouvons continuellement crier à toi, te demander du secours, et tu répondras favorablement. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, et il le délivre de ses détresses. Tu connais, Seigneur, ce soir, la personne qui est dans la détresse, peut-être à cause de sa maladie, peut-être à cause de sa famille, parce que ça se passe mal, alors qu'elle s'est consacrée à sa famille, Seigneur. Tu connais tout cela. Tu sais que cette personne qui a pris tellement de soins à éduquer ses enfants, et qui voit maintenant ses enfants se détourner d'elle, Seigneur. Alors je te demande de l'aider à lever les yeux vers le ciel dans ces moments et à se tourner vers toi pour que tu puisses la secourir, Seigneur. Merci parce que tu le fais. Que ton nom soit béni. Amen.